ministère de la Transition écologique sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission en coproduction avec la DGLN que nous sommes ravis d'accueillir toutes les deux semaines dans nos studios. Alors aujourd'hui, avec moi, deux invités qui vont nous parler de la carte des loyers. D'abord, en studio, Basile Pfeiffer. Bonjour Basile.
Bonjour Johanna.
Vous êtes adjoint au chef du bureau des études économiques DGLN DHUP et vous suivez notamment au sein de la DHUP les sujets relatifs aux études économiques sur le logement et aux bases de données. Et vous n'êtes pas seul puisque nous avons avec nous par téléphone Marie Breuillet. Bonjour Marie.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chercheuse à l'INRA, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous avez développé la méthodologie de la carte des loyers avec vos collègues du laboratoire CESAR, Camille Griveau qui est géographe à AgroSub Dijon et Julie Le Gallo qui est professeure d'économie à AgroSub Dijon également. Et tous les deux, aujourd'hui, vous allez donc nous présenter les cartes de loyers qui ont été mises en ligne jeudi dernier sur le site du ministère de la transition écologique. C'est tout chaud et c'est déjà sur Radio Territoria. On démarre.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, l'invité du MAG.
Alors, Basile, on va démarrer avec vous. Ces cartes des loyers, quelles informations nous donnent-elles ?
Oui, alors effectivement, la DGLN a publié la semaine dernière deux cartes interactives avec des indicateurs de loyers pour toutes les communes de France. Il y a deux cartes parce qu'il y en a une qui donne les loyers pour les appartements et une qui donne les loyers pour les maisons. Donc un particulier qui cherche à déménager, un bailleur qui souhaite louer son bien ou encore un élu local qui doit piloter une politique de l'habitat va pouvoir consulter ces cartes pour connaître le niveau des loyers dans la commune qui l'intéresse.
Alors le réseau des observatoires locaux des loyers fournit déjà une information très précise sur les loyers pratiqués dans de nombreuses agglomérations. Certaines plateformes d'annonces de location en ligne ou des observatoires privés communiquent également régulièrement des informations sur les loyers, notamment grâce à des baromètres, parfois même à un niveau très fin. Alors pourquoi un nouvel outil ?
Effectivement, il y a déjà des outils et notamment depuis 2013, l'État soutient le développement des observatoires locaux des loyers. Ce sont des observatoires partenariaux, très intéressants parce qu'ils s'appuient sur des initiatives locales. Et aujourd'hui, ce réseau associatif de 30 observatoires locaux des loyers, les OLL, publie chaque année des informations qui sont fiables et précises sur les loyers pratiqués, mais uniquement dans les principales agglomérations françaises qui sont couvertes. Et ces grandes villes, celles qui sont couvertes par les OLL, elles représentent environ la moitié du parc locatif privé. Et sur le reste du territoire, l'information qu'on avait, elle était parcellaire, voire inexistante. Et donc nos cartes des loyers permettent une couverture de l'ensemble du territoire, notamment sur la partie du territoire qui n'est pas couverte par les OLL. Et vous avez raison, il y a également des acteurs privés qui suivent l'évolution des loyers sur la base de sources diverses. Et l'information qu'ils communiquent reste souvent partielle dans les territoires, dans les petites villes ou dans les territoires ruraux. Et parfois, les données et la méthode de calcul des indicateurs restent assez floues. Donc une avancée majeure de nos cartes des loyers, c'est qu'elles s'appuient sur une méthodologie qui est totalement transparente. Marie pourra en parler après. Et qu'elles sont en libre accès.
Alors avant de donner la parole à Marie, Basile, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez réussi à atteindre cet objectif qui est de quantifier le montant des loyers dans chaque commune de France, qui est quand même un sacré boulot.
Effectivement, c'est un sacré boulot et en fait, c'est un travail d'équipe. Ce projet de carte des loyers, il a pu se réaliser grâce à un partenariat inédit avec les trois plateformes de location en ligne que sont Se Loger, Le Bon Coin et PAP, qui ont accepté pour la première fois de mettre à disposition leurs données d'annonces locatives publiées en ligne pour améliorer la connaissance des loyers. Par ailleurs, ce projet il a été rendu possible grâce à l'expertise statistique, la connaissance du marché du logement de l'équipe de recherche. Et enfin, il ne faudrait pas oublier de citer l'appui méthodologique qu'on a reçu de la part de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, l'OLAP, qui est un acteur historique de la connaissance des loyers, de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, l'ANIL, et de la start-up Priceable. cette dimension partenariale, c'est aussi ça qui fait la richesse de ce projet.
Donc on voit bien que effectivement, c'est un travail de tous les acteurs qui récoltent de la donnée immobilière sur le territoire. Marie, c'est vous donc qui avez développé la méthodologie des indicateurs de loyer avec les deux collègues que nous avions précédemment cités, Camille Griveau, Julie Le Gallo. Quels étaient les défis méthodologiques pour en arriver à ce résultat ?
Alors le plus grand défi, c'était de collecter la matière première, c'est-à-dire les données, parce qu'elle conditionne la précision des indicateurs de loyer. Et donc, comme le disait Basile, c'est grâce au partenariat que nous avons pu conclure avec les trois plateformes de location en ligne, Le Bon Coin, Se Loger, PAP, que nous avons pu collecter et exploiter une mine de données, donc 9 millions d'observations, 9 millions d'annonces au total, à savoir 7,5 millions d'annonces pour les appartements, 1,5 million d'annonces pour les maisons, pour la France entière, bon, à l'exception de Mayotte et sur la période 2015-2019. Malgré cette mine d'informations, il restait quand même des parties du territoire, en particulier dans les zones rurales, pour lesquelles aucune annonce de location n'avait été publiée via une de ces trois plateformes sur la période, ce qui est le cas dans 31% des communes pour les appartements et 12% des communes pour les maisons. Donc, le second défi majeur, c'était de calculer des indicateurs de loyer dans ces communes pour lesquelles nous n'avions aucune information. Et donc, c'est pour cela qu'on a développé, avec Camille Griveau et Julie Le Gallo, un algorithme de clustering spatial pour découper le territoire en mailles homogènes du point de vue du marché locatif privé pour exploiter l'information que nous avions pour les communes voisines.
Alors avec cet algorithme, on rentre vraiment dans le très technique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement ?
Oui, alors un algorithme de clustering spatial regroupe des communes voisines de manière à ce qu'elles atteignent une taille critique en termes de nombre d'observations, nombre d'annonces publiées. Et nous avons fixé ce seuil à 500 annonces publiées à l'intérieur de chacune des mailles. Et donc l'algorithme part d'une commune et cherche ensuite, parmi les communes voisines, celles qui sont le plus semblables, sur la base de 14 variables que nous avons sélectionnées, qui caractérisent le parc locatif privé local et qui caractérisent les locataires de chacune des communes françaises. Donc on obtient un maillage du territoire, un maillage qui est très variable. Dans les grandes villes, une maille correspond à une commune, voire même un arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille, alors que dans les zones plus rurales, une maille peut contenir jusqu'à plusieurs dizaines de communes.
Alors une fois que vous avez ces mailles, comment obtenez-vous les indicateurs ? Est-ce qu'il suffit juste de calculer la moyenne dans chacune de ces mailles des loyers ?
Alors les biens mis en location peuvent avoir des caractéristiques très différentes. On ne peut pas calculer un loyer moyen ou un loyer médian en agrégeant les loyers de logements très hétérogènes. Par exemple, en agrégeant les loyers de chambres de bonne avec des loyers d'appartements haussmanniens. Et on ne peut pas non plus comparer des loyers médians entre des communes qui ont des parcs locatifs privés très différents. Donc pour tenir compte des caractéristiques des biens, pour tenir compte de l'hétérogénéité des marchés locatifs, on a donc estimé un modèle hédonique dans chaque maille. Alors un modèle hédonique permettant de décomposer le montant du loyer en attribuant une valeur qu'on appelle prix hédonique, à chacune des caractéristiques qui contribuent à la formation des montants des loyers. Donc en l'occurrence, nous avons retenu comme caractéristique la surface du logement, la surface moyenne par pièce, le trimestre et l'année de publication de l'annonce, et la source des données, la plateforme, donc Se Loger, PAP ou Le Bon Coin. Et donc, pour vous donner un exemple, le prix hédonique de la surface nous dit de combien d'euros le loyer augmente quand on augmente la surface d'un mètre carré. Et on observe des variations de prix hédonique qui sont parfois très importantes d'une maille à l'autre, parce que vous imaginez qu'un mètre carré supplémentaire n'est pas valorisé de la même manière à Neuilly ou à Prades. Et donc à partir de ces prix hédoniques, on calcule un indicateur pour un bien de référence. Un bien de référence qui est le même sur tout le territoire. Donc on retient un appartement de 49 mètres carrés et une maison de 92 mètres carrés. Et donc c'est ce qui va permettre ensuite de faire des comparaisons entre territoires. Parce qu'on va comparer le montant du loyer On va comparer les indicateurs pour un même bien. Et petite précision, cet indicateur est charge comprise, parce que les données transmises par nos partenaires ne nous permettent pas de connaître la ventilation entre le loyer hors charge et les charges.
Est-ce qu'il est possible de télécharger tous ces indicateurs ?
Oui, alors c'est possible sur data.gouv.fr et c'est même conseillé. Vous trouverez deux fichiers, donc un fichier pour les appartements, un fichier pour les maisons. Et à l'intérieur de ces deux fichiers, il y a en plus du montant des indicateurs, trois variables qui donnent des informations importantes sur la qualité, la précision de l'indicateur dans chacune des communes. Donc la première information, c'est le R2, le coefficient de détermination, qui est d'autant plus élevé que la valeur de l'indicateur est proche des loyers observés dans les annonces. Donc le R2, qui est compris entre 0 et 1, est jugé bon quand sa valeur est supérieure à 0,5. Et donc deuxième information, l'intervalle de prédiction, qui est une plage de loyer par mètre carré. La probabilité que l'indicateur de loyer soit réellement compris dans cet intervalle est de 95%. Donc plus l'intervalle est petit, plus l'indicateur de loyer est fiable. Troisième information aussi qui est importante pour l'utilisateur, c'est le nombre d'observations. Le nombre d'observations utilisées dans les estimations pour chaque maille et pour chaque commune. Donc avec ces tableaux de données, un utilisateur peut avoir une idée de la fiabilité localement de l'indicateur de loyer. Et donc vous pouvez également télécharger sur le site data.gouv.fr la note méthodologique qui présente les données des partenaires, les traitements que notre équipe de recherche a réalisés, la méthodologie que nous avons retenue pour concevoir ces indicateurs, ainsi que les limites intrinsèques aux données et donc les implications méthodologiques dans une perspective de raffinement de ces indicateurs de loyer. Et je précise également que sur le site de l'Observatoire des territoires, vous pouvez retrouver la carte interactive avec en plus des fonctionnalités intéressantes. Donc vous pouvez par exemple modifier l'échelle de couleur, comparer avec d'autres données localisées ou encore faire des exports qui sont personnalisés de la carte.
Que nous apprend justement cette carte des loyers ?
Alors, tout d'abord, on a pu quantifier pour la première fois les écarts de loyers entre les communes. Dans les communes rurales, les petites villes, les indicateurs de loyers sont toujours inférieurs à 9 euros le mètre carré, avec même dans certaines communes assez isolées, des loyers à 5 euros le mètre carré. Et à l'inverse, les loyers les plus élevés sont, comme attendu, à Paris et dans certaines communes de la Côte d'Azur, où on atteint jusqu'à 30-35 euros le mètre carré, soit 7 fois plus. À un niveau local, on trouve aussi des variations importantes, hein, de fortes variations. C'est le cas, par exemple, dans la métropole Nice-Côte d'Azur, où on observe que les loyers sont 3 fois plus élevés dans des communes sur la côte, comme Saint-Jean, Cap-Ferrat, que dans des communes de l'arrière-pays comme Bérols. Alors, comme attendu, hein, les indicateurs sont très élevés dans les grandes agglomérations. Avec, pour les arrondissements lyonnais, on trouve des indicateurs compris entre 13 et 16 euros du mètre carré. À Marseille, entre 12 et 15 euros du mètre carré. Et à Bordeaux, par exemple, l'indicateur s'élève à 14 euros le mètre carré. Et pour donner un autre exemple, à Nice, donc l'indicateur s'élève à 17 euros le mètre carré. Alors de la même manière, hein, les indicateurs sont élevés, comme on pouvait s'y attendre, dans les zones touristiques, dans les zones frontalières, en Corse et dans les Drôme. Et donc tout ceci confirme en fait des intuitions que nous avions déjà, mais l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de les objectiver.
Et vos biens de référence correspondent à des annonces qui ont été publiées en 2018, donc ça fait un peu plus de 2 ans. N'était-il pas possible de fournir des indicateurs pour une période un peu plus récente ?
Alors, la couverture du territoire avec notre base de données d'annonces était meilleure en 2018 qu'en 2019. Et le fait de disposer dans chacune des mailles d'un nombre suffisant d'annonces pour l'année de référence retenue conditionne à la fois la possibilité de calculer un indicateur partout sur le territoire et la précision d'indicateurs. Comme on le disait, hein, on trouve des variations qui sont très importantes parfois entre les communes, des variations importante, très importante au niveau national, mais également au niveau local. Et à l'inverse, les variations d'une année sur l'autre, les variations de loyers sont plus limitées, donc de l'ordre de 1 à 2% au national, hein, selon l'indice de référence des loyers de l'INSEE. Donc on a privilégié la comparabilité des niveaux de loyers entre les territoires plutôt que la diffusion d'un indicateur pour une date plus récente.
Basile, concrètement, après tout ce qu'on vient d'entendre, les explications de Marie, à quoi servira cette carte des loyers ?
Alors, à mon avis, la connaissance sur les loyers, elle sert deux objectifs. Le premier objectif, c'est la transparence des marchés. La connaissance en soi des niveaux de loyers, elle permet d'aider les locataires, les propriétaires, des investisseurs, des professionnels à faire leur choix, à s'informer, à conseiller. Les données publiées largement et de façon à ce qu'elles soient facilement utilisables peuvent servir à cela. Et deuxièmement, à améliorer l'ajustement, l'adaptation des politiques de l'habitat menées au niveau national ou au niveau local aux réalités des territoires et notamment au niveau de tension sur le marché locatif. Ça, ce sont les grands objectifs à long terme. Pour l'instant, hein, l'objectif de cette première phase de ce projet, c'était avant tout d'avoir de premières informations sur les territoires où on n'en avait pas ou très peu. L'idée, c'est de diffuser assez largement ces indicateurs pour qu'ils puissent être utilisables par tous, les acteurs du marché, les collectivités territoriales, les services techniques, les opérateurs publics. Donc on a choisi de mettre tous les résultats en ligne sous forme de cartes interactives et de tableaux, comme l'a présenté Marie, ainsi que la méthodologie détaillée. À partir de là, les usages pourront être multiples. On verra comment les acteurs vont s'approprier ces indicateurs, les retours qu'on aura, et par ailleurs, on s'en servira pour la suite du projet.
Alors justement, tout ça veut dire que le projet va être poursuivi ?
Bien sûr. Les résultats qu'on a diffusés la semaine dernière restent encore relativement expérimentaux. C'est un projet qui est assez innovant pour le ministère, et donc il y a un travail qui pourra être poursuivi pour affiner les indicateurs et en produire éventuellement d'autres. Avec par exemple une granularité un peu plus fine. Et puis il faudra bien sûr mettre à jour les indicateurs qui, comme on l'a dit, ont été diffusés pour l'année 2018. Donc pour que l'outil rentre dans une deuxième phase, donc dans une première phase on était dans une phase dite de conception ou de développement, et maintenant on entrerait dans une phase de mise en production, le ministère a proposé à l'Agence nationale pour l'information sur le logement, l'ANIL, de reprendre le projet pour les deux prochaines années. La mission de l'ANIL, ce sera d'affiner la méthodologie, de mettre à jour les indicateurs, tout en maintenant, voire en renforçant l'aspect partenariel de ce projet, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi ça qui en fait sa richesse. Et bien sûr, le ministère chargé du logement, via la DGALN, continuera à soutenir et à suivre de très près ce projet, puisque c'est un projet que nous considérons très important.
Est-ce que ces indicateurs auront vocation à remplacer les OLL dans un futur plus ou moins proche ?
Alors non, pas du tout. Les OLL produisent des informations qui sont différentes. Ce sont des loyers hors charge, ce sont des loyers qui sont diffusés par typologie de logement avec des informations à un niveau infracommunal, alors que là on donne des indicateurs de loyers par commune. Et puis, il s'appuie sur des données de base qui sont différentes. Hein. Ce ne sont pas la même nature de données, ce ne sont pas des données d'annonce. Donc aujourd'hui, sur les territoires où il y a un observatoire local des loyers, ce sont les informations de ces OLL qui, a priori, continueront à faire référence. Et certains dispositifs, comme par exemple l'encadrement des loyers, ont vocation à continuer à s'appuyer sur les données des OLL. Et par ailleurs, comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a des observatoires privés, des baromètres qui fournissent aussi des informations qui sont très intéressantes. Donc par rapport aux OLL et à ces autres observatoires qui peuvent exister, cet outil, cette carte des loyers, elle propose une information qui n'est pas substituable, qui n'a pas vocation à les remplacer, mais bien à être complémentaire. Et de toute façon, de notre point de vue, sur les loyers, on a plutôt pas assez d'informations que trop d'informations.
Merci Basile pour ces premières explications. Merci également à vous Marie, vous restez bien tous les deux avec nous puisque nous allons maintenant répondre aux questions que nous posent nos auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et on démarre avec, j'avais envie de dire une question, mais en fait plusieurs questions d'Arnaud qui nous les pose tout en fil. D'abord, il vous remercie pour le travail effectué, il faut le dire. Et il vous demande, le nombre d'observations par commune est-il avant ou après dédoublement des annonces ? Est-ce que vous conseillez une utilisation du loyer médian ou moyen ? Que conseillez-vous sur les zones avec des indicateurs peu fiables, comme par exemple la Nouvelle-Aquitaine où seulement 8% des communes respectent les trois contraintes de qualité ? Basile.
Alors c'est plutôt une question pour Marie, ça. C'est une question méthodologique.
Donc c'est 9 millions d'observations sont effectivement après des doublonnages. C'est une question effectivement importante parce que des doublons étaient susceptibles d'être présents dans les données, à la fois des doublons intra-comptes à l'intérieur d'une même base et pour un même compte hein, lorsqu'un annonceur met à jour son annonce, et des doublons interbases, c'est-à-dire entre les bases de données transmises par les différents partenaires lorsque plusieurs annonces relatives à un même bien sont publiées simultanément sur différents sites. Donc on a procédé à deux types de dédoublonnage, donc ce dédoublonnage intra-compte qui a été assez facile, et le dédoublonnage interbase. Et donc les 9 millions d'observations concernent sont les données que nous avons obtenues après dédoublonnage sur l'échantillon.
Oui, la suite, c'était sur l'utilisation, plutôt loyer médian ou loyer moyen ?
Alors, notre indicateur de loyer n'est ni un loyer médian, ni un loyer moyen. Nous avons utilisé donc un modèle hédonique qui permettait de prendre en compte l'hétérogénéité de la variation des caractéristiques des biens. Et ensuite, nous avons utilisé ces prix hédoniques afin de calculer un indicateur.
Et pour les zones, Basile veut rajouter une petite info.
Oui, Marie, je pense que la question posée, c'était aussi est-ce qu'on pourrait agréger ces données à un niveau territorial au-dessus des communes, donc par exemple pour avoir un indicateur de loyer par région, par exemple. Est-ce qu'il faudrait faire une moyenne ou une médiane ? Alors a priori, ce n'est pas des indicateurs qui ont été conçus pour ça. J'aurais tendance à conseiller plutôt de regarder la médiane. La moyenne reste possible. Sinon, on peut aussi regarder la distribution à l'intérieur de la région pour voir aussi les écarts entre les maximums et les minimums, par exemple. Et il y avait une troisième question sur que faire des indicateurs qui sont où finalement on a des indices que l'estimation n'est pas parfaitement fiable. Alors, je pense que les indicateurs, le fait d'avoir transmis les indicateurs avec les informations téléchargeables qui permettent de renseigner sur la fiabilité des données, c'est avant tout dans un souci de transparence. Et les indicateurs renseignent quand même sur le niveau des loyers. C'est simplement qu'il faut considérer avec un peu plus de prudence les indicateurs. Là où les intervalles de prédiction sont plus larges, là où le R2 est plus faible, comme disait Marie, ça ne veut pas dire que ces indicateurs ne renseignent pas, mais ça veut dire qu'on est simplement un petit peu moins confiant dans la valeur qui est transmise.
On poursuit avec une question de Julien qui nous informe que la DREAL Pays de la Loire a développé depuis juin 2018 un système d'information et de collecte des loyers privés qui est disponible donc sur Internet, qui est mis à jour grâce à des données qui sont collectées quotidiennement et qui nous demande s'il est prévu de faire évoluer à moyen ou long terme les cartes nationales des loyers avec vers un outil disposant du même type de fonctionnalité.
Alors, c'est une des pistes, effectivement. Ce que je comprends de la question, c'est que d'aller vers plus de réactivité des indicateurs, une mise à jour beaucoup plus régulière. Je pense que c'est une piste qui est très intéressante parce que effectivement, les données qui sont les données des annonces en ligne de publiées sur Se Loger, Le Bon Coin et PAP, elles peuvent remonter en théorie assez rapidement puisque directement elles sont disponibles. Pour, euh, pour ces plateformes, alors ce qui n'est pas le cas par exemple de données qui font l'objet d'un recensement avec des agents qui vont sur le terrain et ça prend beaucoup plus de temps. Donc là on a théoriquement une remontée assez rapide qui est possible. Maintenant ça demande de faire évoluer l'outil. Là, on a, comme disait Marie, privilégié la précision géographique des indicateurs. Si on veut aller vers plus de précision temporelle, entre guillemets, là, il faudrait un petit peu repenser la méthodologie, repenser l'outil, repenser également les partenariats. Voilà, c'est une piste qui est très intéressante parce que finalement, ça nous ouvre des voies qui sont prometteuses de ce point de vue-là. Mais ça demande un travail qui est supplémentaire, donc ce ne sera pas à très court terme.
On a eu une autre question, pareil, sur ces prix. Est-ce que vous distinguez les loyers dans le neuf et ceux dans l'ancien ? Marie ?
Oui, non, la finesse de nos indicateurs dépend en grande partie de la finesse des données que nous ont transmises nos partenaires et des variables qui étaient communes aux trois bases de données transmises. Donc malheureusement, non, nous n'avons pas cette distinction entre le logement neuf et le logement ancien.
On nous demande également, en citant les exemples de logements de type que vous avez pris, qui est une maison de 92 mètres carrés et un appartement de 40 mètres carrés, s'il sera possible à terme d'obtenir un indicateur pour un type de bien spécifique que l'utilisateur aurait lui-même défini.
Alors, c'est aussi une piste qui est très intéressante. Effectivement, pour l'instant, on ne diffuse que deux cartes. Une carte pour les appartements et les maisons. Au-delà de cette différence appartement-maison, on n'a pas de loyer pour différentes... par exemple, pour les petits appartements ou les grands appartements. Or, il peut y avoir des différences assez importantes dans les loyers par mètre carré entre un T1, T2 et un T3, T4. C'est une piste qui est tout à fait, encore une fois, possible théoriquement, puisque les modèles hédoniques qui ont été utilisés par l'équipe de recherche permettraient, en théorie, de calculer des indicateurs comme cela. Maintenant, calculer des indicateurs pour différents types de logements et pour chaque commune de France, ça fait énormément d'indicateurs. Et donc, il faut qu'on ait un travail supplémentaire, encore une fois, méthodologique, pour s'assurer que les résultats qu'on obtient seraient cohérents, pour s'assurer qu'il n'y a pas des valeurs qui ressortent qui sont surprenantes, pour comparer aussi avec d'autres sources qui existent, puisque... Ce que Marie n'a pas précisé et finalement ce sur quoi on n'a pas beaucoup communiqué, c'est qu'il y a eu un très gros travail de comparaison des indicateurs qu'on obtient avec cette méthode avec d'autres sources dont on a parlé tout à l'heure, notamment les observatoires locaux des loyers. Donc il faudrait aussi refaire ce travail de vérification de la cohérence des indicateurs qu'on obtient si on allait vers d'autres types d'indicateurs, notamment par typologie de logement. Mais encore une fois, c'est clairement une piste qu'on a identifiée comme étant très intéressante pour la suite du projet.
On nous demande également pourquoi fournir des niveaux de loyer dans des communes où il n'y a pas de secteur locatif. Marie ?
Oui, l'indicateur de loyer nous donne un niveau potentiel de loyer pour un bien type qui serait mis en location. Et donc, c'est un loyer reconstitué en l'absence d'un marché locatif observable qui est obtenu grâce aux données d'annonces publiées dans les communes voisines qui présentent des caractéristiques similaires.
Vous nous avez dit également un peu plus tôt dans l'émission que Mayotte n'était pas couverte par la carte des loyers. Pourquoi un manque de données, Marie ?
Oui, tout à fait. On avait trop peu de données d'annonces transmises par les partenaires pour établir des prédictions qui soient fiables dans ce territoire.
Ok, Basile, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, alors si je peux me permettre, effectivement, on n'a pas réussi à obtenir d'indicateurs sur Mayotte. C'est un peu généralement un problème où beaucoup de dispositifs aujourd'hui qu'on a pour observer à la fois la qualité du parc de logement, le marché immobilier, ne couvrent pas Mayotte. C'est un problème assez général et sur lequel, malheureusement, c'est assez dommage, mais il faudrait travailler aussi à long terme.
Ça viendra avec le temps, on l'espère en tout cas. Merci à tous les deux. Avant de se quitter, j'aimerais, Basile, que vous nous rappeliez où on peut trouver la carte interactive et les différentes ressources que vous avez mentionnées tout au long de cette émission.
Oui, alors, pour récapituler, il y a une page sur le site du ministère de la Transition écologique, écologie.gouv.fr, sur la carte des loyers. Donc c'est écologie.gouv.fr/carte-d-loyer. Là-dessus, vous avez tous les liens vers les autres ressources, mais je vais quand même les détailler. Il y a une page également qui a été créée sur le portail de l'Open Data, data.gouv.fr, où vous pourrez retrouver les tableaux à télécharger, ainsi que, comme le mentionnait Marie, les documents méthodologiques qui permettent d'avoir le détail de tout le travail méthodologique qui a été fait pour arriver à ces indicateurs. Et dernière ressource très utile, c'est sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle l'Observatoire des territoires, où il y a un portail de cartographie interactive, où il y a énormément d'informations qui sont disponibles à un niveau local sur les loyers, mais sur plein d'autres dimensions, à la fois logement et sur plein d'autres thèmes. Et la carte des loyers a été déposée sur ce portail. Et donc, sur ce portail, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire des exports. On peut notamment, sur un site internet, renvoyer vers la carte interactive ou intégrer la carte interactive sur un autre site internet. On peut faire des exports personnalisés sous différents formats, en changeant les échelles de couleurs, en faisant des zooms sur certaines régions. Et on peut également avoir des portraits de territoire où, sur un territoire donné, on peut retrouver toute la liste des différentes variables qui sont disponibles sur l'Observatoire des territoires, dont, depuis la semaine dernière, le niveau des loyers.
Merci Basile pour ces précisions. Basile Pfeiffer, je rappelle que vous êtes adjoint au chef du bureau des études économiques DGALNDHUP. Merci à vous. Nous avions également en ligne Marie Breuillet. Merci à vous Marie. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous auditeurs pour votre écoute, pour votre attention et pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents numéros du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement en podcast sur notre site Radio Territoria. En attendant le prochain numéro, restez bien à l'écoute de vos territoires. Je vous souhaite une très bonne journée.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.